Vous le savez, pas de journal régional et local aujourd'hui, puisque nous rediffusons en ces temps de fête des temps forts de nos programmes de 2015. Chaque année en été, le village de Pierrevert crée l'événement avec le seul festival dédié à la photographie dans les Alpes du Sud. En plateau, François Malabave reçoit de nombreux photographes connus ou à découvrir. Avec Stéphane Kaussmann, président du festival, et aux côtés de l'invité d'honneur Hans Sylvester, partons à Pierrevert vivre un moment fort où l'on parle d'images mais sans images. 1er août dans la salle polyvalente de Pierrevert.
Et nous sommes à Pierrevert pour une émission spéciale. On retrouve François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Patrice, bonjour à tous. Effectivement, comme chaque année, les nuits photographiques de Pierrevert nous ont invités pour animer un plateau radio pour parler d'images sans images. C'est assez exceptionnel et en même temps c'est un régal pour nous que d'avoir de grands photographes, puis des photographes en devenir qui sont ici même pour parler de leur passion commune, autrement dit la photographie. Et tout de suite, évidemment, tout seigneur, tout honneur, c'est le local de l'étape, encore que local ne lui va pas forcément bien. C'est le président des Nuits photographiques de Pierrevert, notre ami Stéphane Kaussmann. Bonjour Stéphane.
Bonjour François.
Les Nuits photographiques de Pierrevert, c'est la 7e édition, c'est bien ça ?
La 7e édition.
7e édition, ça porte bonheur normalement, le 7, hein, chiffre 7 particulier.
Ça ira jusqu'à 77. J'espère.
Oui, on est parti pour 71 éditions encore. Bon, donc déjà on a un scoop pour commencer. Stéphane, on peut rappeler, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie courante, on peut rappeler que tu vis à cheval entre les États-Unis, la France et notamment ce coin du Luberon particulier qu'est Pierrevert.
Oui, mes parents ont fait un choix de vie dans la fin des années 70, donc je me suis retrouvé parachuté, on va dire, dans cette région que j'affectionne particulièrement aujourd'hui. Ma mère habite à Pierrevert, donc je suis ici environ tous les 2 mois.
Et tu travailles régulièrement dans le domaine de la photo, évidemment aux États-Unis. Et de temps en temps, tu reviens en France, notamment pour le Festival de Cannes.
Exactement, c'est New York, Paris, Pierrevert.
Voilà. Un beau triangle, avec une équipe de passionnés, ici même à Pierrevert, ils sont tous là dans la salle. Ce sont c'est le noyau dur des nuits photographiques de Pierrevert, cette idée un peu folle de créer un festival de la photographie ici en Haute-Provence.
Tout à fait. À l'époque, nous étions, on va dire, entre guillemets, 2 photographes un peu connus dans le coin, c'est-à-dire François-Xavier Emery et moi-même. Donc, un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller voir François-Xavier pour prendre de ses nouvelles et puis, tu sais, on pourrait peut-être faire un festival, partager un petit peu notre petite expérience, comme on était tous les deux autour de la cinquantaine. Donc on a décidé de se lancer. Et puis François-Xavier m'a dit, on n'y arrivera pas à deux. C'est pour ça que Henri Cartman, Alain Gualina, Yves Marchais et à l'époque Elisabeth Dussault se sont joints au groupe et on a démarré comme ça. Ça fait maintenant, donc depuis 2009.
Un pari un peu fou de faire un festival sur la photo. Bon, il y a déjà eu une première dans le sud de la France qui a connu un gros succès et qui connaît toujours un gros succès. Mais on n'est pas à Arles ici. On est beaucoup plus à la fois ambitieux et plus humble, si tu vois ce que je veux dire.
Alors, on n'est pas en Arles, mais très souvent, à chaque fois, quand je vais sur des grosses réunions photographiques, on nous compare aux rencontres d'Arles au début, puisque Alain Gualina et Peter Knapp ont été témoins des premières rencontres d'Arles. Ils disent, on retrouve cet esprit-là. Et c'est vrai que quand on se balade en Arles ou à Paris Photo, ou sur des événements comme ceux que je viens de citer, on nous dit, tiens, ça ressemble à Arles au début.
Et tout le village est investi avec des photographes qui sont hébergés chez l'habitant. Donc il y a un côté très, très sympa et on va le voir au cours de ce plateau radiophonique, justement, avec l'esprit qui se dégage des rencontres et des nuits photographiques, avec aussi un parrain cette année. Alors là, ça me fait doublement plaisir parce que c'est le plus provençal des photographes allemands. Il s'agit d'Hans Sylvester qui est à nos côtés. Bonjour Hans.
Bonjour.
Un immense photographe qui fait de la photo depuis plus de 50 ans. Et il a illustré évidemment beaucoup de magazines, notamment Géo. Il a travaillé avec Raffo. Il s'intéresse à des sujets divers et nombreux. Il s'intéresse beaucoup à l'environnement. Il s'intéresse énormément au peuple et notamment des peuples primitifs, le peuple de l'Homo, notamment avec des expositions. Actuellement, Hans, on peut voir une de vos expositions à la Fondation Carzou à Manosque, une exposition à quatre facettes, on va dire. Et puis, hier, il y a eu le vernissage dans un endroit un petit peu étonnant. Je suppose que c'est peut-être la première fois que vous exposez dans une cave viticole, ici même à Pierrevert, qui est une capitale du vin. Est-ce que c'est la première fois que vos photos et le vin se rencontrent ?
Ah non, c'est pas la première fois. J'ai fait ça déjà une fois en Camargue, alors vraiment en très grande échelle, avec des tirages de 2 mètres 20. Et mis sur les tonneaux en bois. C'était très, très beau. Et c'était à la sortie du livre, les Chevaux de Camargue. Et les gardiens, pour faire plaisir à tout le monde, ils ont fait rentrer les étalons. Donc, les étalons que j'avais photographiés, qui ne sont jamais montés, qui sont vraiment pour l'élevage. Donc, il y avait un danger avec ça, mais ça s'est bien passé. Les étalons, ils ont fait les beaux au milieu des photos. C'était vraiment très, très réussi.
Bon, là, on n'a pas fait venir les gens de la vallée de l'Homo, malheureusement, mais ils étaient quand même présents, et pas sur des cuves en bois, ce sont des cuves métalliques maintenant, vous l'avez vu. Mais c'est une superbe exposition à voir pendant les nuits photographiques de Pierrevert. Hans, l'un des combats de votre vie, en plus de la photo, encore qu'on ne puisse pas parler de combat pour la photo, mais en tout cas pour ce sujet, c'est vraiment un combat, c'est l'environnement. Vous êtes battu contre la déforestation en Amazonie, vous êtes battu pour tous les sujets touchant à l'environnement, notamment ici même, puisque vous habitez pas très loin d'ici, dans le Luberon, et vous avez dénoncé la pollution du Calavon, par exemple, un ruisseau qui coule pas très loin d'ici. Quel regard vous pouvez porter maintenant sur ce combat, sur l'environnement? Est-ce que ça a été utile?
Ça a été utile, c'est sûr. Par exemple, le Calavon, quand ça a été publié dans Géo, ça fait beaucoup de bruit dans la région, mais ça s'est arrêté là. Ça n'a pas changé vraiment les choses. Quand le même reportage a été publié en Allemagne et au Japon, ça a fait un autre chemin. C'est l'ambassade qui a envoyé ces publications au ministre de l'Intérieur et lui l'a envoyé au préfet avec une lettre que j'ai lue, qui est très, très dur, mauvais pour le prestige, mauvais pour l'agriculture provençale, mauvais pour le tourisme. Et à ce moment-là, les choses ont changé. Tout d'un coup, on a trouvé des millions, parce qu'il fallait des millions, pour construire les stations d'épuration. Le fait aussi que j'ai publié ce reportage, ça a intéressé la télévision. Autrement, la télévision, bien ça, il ne sera pas venu pour faire un reportage.
Il y a eu un effet en cascade, donc.
Mais mon reportage était un peu un dossier pour la télévision, donc c'était utile.
C'était utile, et puis en même temps, pour en avoir parlé avec vous lors du vernissage de l'exposition à la Fondation Carzou, les hommes ont toujours rien compris en ce qui concerne la déforestation, la pollution, et il faut toujours se battre et toujours demander, par exemple, aux politiques ou aux industriels de faire des efforts.
Mais la situation s'aggrave tous les jours, c'est évident. On parle beaucoup de l'environnement aujourd'hui, mais de plus qu'on parle, de plus on le tue. C'est vraiment, c'est terrifiant. Il suffit de voyager, ça qui se passe en ce moment en Afrique, ça qui se passe en Asie, c'est terrifiant. C'est la déforestation, la saleté qui devient omniprésente avec le plastique. C'est vraiment une catastrophe. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont une catastrophe. Les multinationales qui deviennent tellement riches, qui sont des propres moyens équivalents des pays. Tout ça, c'est très, très, très inquiétant. On ne sait pas où on va.
On va essayer d'être un petit peu plus optimiste. Hans Sylvester, en 1958, un jeune photographe débutant débarque à Manosque, sur une mobylette en plus, je crois, et vient voir un grand écrivain, Jean Giono, pour lui demander d'assurer la préface et le lancement d'un premier ouvrage, le premier d'une longue liste, puisqu'il y en a eu au moins 49 autres qui ont suivi après, pendant toutes vos années d'exercice. Quel culot de ce jeune photographe que vous étiez à l'époque d'aller voir ce grand écrivain de Jean Giono. Comment vous est venue cette idée?
Mais en 57, à cette époque, Giono était beaucoup plus lu en Allemagne qu'en France. Et en plus de ça, ça faisait partie de l'éducation. À l'école, on lisait Jean Giono. Ce contact de Giono avec la nature, l'homme dans la nature, ça, c'était, il y avait une sensibilité après la guerre en Allemagne extrême pour ça. Donc, il a eu des tirages vraiment énormes en Allemagne. Et c'était vraiment l'homme pour parler de la Provence. Alors, quand j'ai fait les photos en Camargue et je les ai réunies dans une maquette, j'ai montré cette maquette à un éditeur allemand qui m'a dit, moi, je suis prêt de faire le livre si tu m'amènes un texte, une préface de Giono. Et deux jours après, j'étais en route avec la Vespa et je suis arrivé à Manosque. Et alors, j'ai sonné chez Giono, sa femme m'a ouvert. Elle m'a dit, le maître, il travaille. On ne peut pas le déranger, le maître, il travaille. Alors, j'ai insisté un peu, et en disant que je viens de loin, que ça prend que 2 minutes pour lui montrer quelque chose. Et lui, il a attendu ça dans son bureau. Il est descendu. Il m'a ouvert la porte. Il a regardé tranquillement la maquette. On a bu le café ensemble. Et ça y est, j'ai eu la préface.
C'est un souvenir extraordinaire que vous gardez de Jean Giono.
Oui, parce que là, c'était une première rencontre. Mais après... Il y en a eu d'autres. Donc, quand le livre est sorti, je lui ai amené.
C'est Camargue, hein, le livre Camargue, en question.
Une préface vraiment extraordinaire. Je dois dire, il faudrait que tout le monde le lit. C'est fantastique. Et donc, je lui ai amené le livre. Et à cette époque, Giono, il avait publié beaucoup de livres, mais pas de livres illustrés. C'était nouveau pour lui. Donc, un livre avec les photos, et il a eu vraiment un énorme plaisir d'avoir ça en main. Et c'était très bien imprimé en Helio, en Suisse, donc c'était bien soigné. Et il était vraiment heureux. Et après, on s'est vu régulièrement encore, et chaque fois, c'était...
Toujours ici, à Manosque, au Paraïs, chez Giono.
À Manosque et à Lure.
Et aux rencontres de Lure, évidemment.
Donc, c'était chaque fois ici, c'était chaque fois que je suis parti, très, très, très impressionné.
Stéphane Kosman.
Je crois que tu as oublié de souligner, il y a quand même eu un petit nuage ce jour-là, non? On t'a piqué ta moto?
Non, mais... oh. Non, c'était avant ça.
Ils ne sont pas voleurs à Manosque. Allons, Stéphane.
C'est arrivé à Marseille.
En plus, voilà.
C'est à Marseille.
Donc, surtout ne pas confondre. Pas confondre. Hans, ce grand écrivain qui est Jean Giono, après vous l'avez côtoyé, vous avez même assuré les photographies, notamment de plateau du film de Jean-Paul Rapneau, Le Hussard sur le toit, et vous l'avez présenté au Centre Giono en 93 d'ailleurs avec Rapneau. C'est pour vous un écrivain majeur, une des rencontres importantes de votre vie.
Mais Giono, pour moi, c'est un des premiers écologistes, en vérité. Il a compris à une époque où personne n'avait compris vraiment la nature, la profondeur de la nature. Giono, il avait compris ça. Et on a les deux écrivains vraiment en Provence qui sont commencés avec l'écologie. L'autre, c'est René Char. Et ça qu'on oublie avec Giono, Giono, il a publié des articles dans le Provençal à l'époque. Très, très dur. Très, très engagé et totalement écologiste. Et c'est pareil avec René Char. René Char contre les fusées. Eh bien, toutes les deux, ils ont utilisé leur connaissance des mots dans un but. Ils ont cherché l'efficacité. Et ils ont été tellement efficaces que les hommes politiques ne leur sont jamais pardonnés.
Et oui, quelque part, il était un précurseur de la décroissance, avec sa lettre aux paysans notamment.
Mais c'est des choses importantes. Aujourd'hui, on parle plus de ça. On ne le fait toujours pas. Mais lui, il a dit des choses comme ça il y a longtemps.
Et c'est très précieux. Merci beaucoup, Hans-Sylvester. Vous restez avec nous. Je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter quelqu'un qui vit aux États-Unis comme Stéphane Kosman et qui est français aussi, donc expatrié là-bas. Il écrit et il s'intéresse beaucoup aux questions d'environnement. Et je vous propose d'écouter Charles-Élie Couture qui nous parle des ours blancs qui disparaissent. Et nous sommes tous des ours blancs.
Dans la lumière, dans le nitrate, dans les rivières, dans le poisson sorti de la mer, dans le fruit en hiver, dans le container sur le quai, dans la richesse accumulée, dans l'opinion manipulée, dans la charge supportée, abondance à outrance, trop de tout d'un côté, pénurie et carence, trop de rien de l'autre côté. Nous sommes tous des ours blancs. Nous sommes tous des ours blancs. Tant de produits fabriqués, tant d'inventions dépassées, tant d'animaux empaillés, tant de gorilles dépecés, tant de grands arbres abattus, pâte à papier qu'on ne lit plus, tant de gâchis dans les poubelles, tant de caprices existentiels, abondance à outrance, trop de tout d'un côté, pénurie et carence, trop de rien de l'autre côté. Nous sommes tous des ours blancs. Nous sommes tous des ours blancs. À l'école, c'est logique. L'écologie, il faudrait l'enseigner. Grammaire de l'eau, de l'air ou de la lumière. D'un côté la misère de ceux qui retournent la terre, de l'autre la loi des marchés et l'utopie de l'égalité. Ah, les grands mots brandis comme des étendards, fraternité, égalité, solidarité. Si seulement on pouvait croire. Abondance à outrance, trop de tout d'un côté, pénurie et carence, trop de rien de l'autre côté. On préfère le nier, feindre l'ignorer, trop d'excès d'un côté, l'autre pas assez. Nous sommes tous des ours blancs, tous des ours blancs.
Nous sommes tous des ours blancs, disait Charles-Élie Couture, et il a bien raison, et les ours blancs sont en train de disparaître, et les hommes sont peut-être en train de creuser leur tombe. Il faudra qu'on médite sur ce genre de choses, et la photo peut nous y inciter et nous y inviter, c'est ce que fait Hans Sylvester depuis déjà 50 ans, et c'est ce que font aussi un petit peu les photographes qui sont également en plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Martha Rossignol et Céline Ravier. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir en plateau sur Fréquence Mistral pour parler de photographie, pour parler également d'Éthiopie, parce que vous êtes parties toutes les deux, chacune de votre côté, en Éthiopie, faire des photos dans des cadres très différents. Et vous êtes réunis ici à Pierre Vert et vous exposez, je crois que c'est à la chapelle de Régus, à la cave de Régus.
À la chapelle.
À la chapelle de Régus, j'avais bien raison. Vous exposez vos travaux presque communs, mais qui sont très différents. Alors, Céline Ravier, vous allez peut-être nous expliquer. Vous êtes partie en Éthiopie et vous avez photographié des pèlerinages très particuliers.
Alors, c'est un pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage de Cherusen, qui a lieu deux fois par an, deux dates, dont une qui est très précise, qui est le jour de l'Aïd, enfin la fin du Ramadan, donc si tu veux prendre octobre.
Donc, ce sont des pèlerinages musulmans.
C'est un pèlerinage musulman. Les pèlerins qui viennent sur ce lieu saint viennent d'Éthiopie, bien évidemment, mais d'autres pays comme l'Érythrée, la Somalie, le Kenya, dans toute la Corne d'Afrique. C'est un grand rassemblement, c'est le plus grand pèlerinage musulman de la Corne d'Afrique.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet particulier ?
C'est vrai que l'Éthiopie est plus, on va dire, connue pour la religion chrétienne. Donc, ce pèlerinage, je n'avais pas entendu parler très souvent. J'ai eu l'envie de voir, tout simplement, d'aller voir comment ça se passait là-bas.
Mais de témoigner aussi par la photo.
Et de témoigner, oui, tout à fait.
De partager, donc.
Oui, surtout.
Et puis vous, Martha Rossignol, vous avez aussi été en Éthiopie, mais à un autre endroit, et vous avez photographié, vous, des chrétiens.
Les chrétiens orthodoxes, justement. Donc, à la Libella se trouve à 2600 mètres d'altitude, sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Et pour ces chrétiens qui sont orthodoxes, mais qui ne sont pas rattachés ni à l'Église catholique, grec ni russe, il était difficile de partir en pèlerinage en Israël. Il y avait la distance et il y avait aussi les problèmes d'insécurité avec les musulmans. Donc c'est pour ça qu'au XIIe siècle, le roi Lalibela fit construire une Jérusalem de substitution pour ces chrétiens. Donc, on trouve 11 églises qui sont creusées dans la roche, qui sont camouflées.
Donc, des églises troglodytes ?
Non, des églises monolithes.
Monolithes,
en fait, oui. Et donc, les chrétiens viennent faire leur rituel dans ces églises.
Vous êtes vous-même, Martha Rossignol, une grande voyageuse. Vous aimez partir un petit peu partout dans le monde. Et c'est pour partager, j'ai utilisé ce mot tout à l'heure avec votre voisine, c'est pour partager que vous faites de la photo ?
Oui, mais je suis avant tout une grande voyageuse. Je suis déjà partie plusieurs fois dans des périples au long cours. J'ai eu la chance de réaliser deux tours du monde. Et c'est pour un peu témoigner que j'utilise la photographie.
Oui, parce que généralement, si on va en vacances, on va au bord de la mer, on va bronzer idiot, voilà. Généralement, mais pas faire des photos d'un pèlerinage ou d'église dans des pays qui, en plus, sont des pays habités par la guerre.
Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse toujours dans le voyage, c'est les hauts lieux spirituels et les religions. Essayer de comprendre les rites, les traditions et ressentir aussi toute l'énergie qui émane de ces lieux. Donc d'abord, j'aime un peu observer, prendre mon temps, faire un peu partie du décor pour que les gens m'oublient. Et après, donc, je prends mes photos.
Vos travaux sont exposés conjointement ici à Pierre Vert. Qu'est-ce que vous pensez l'une de l'autre du travail de votre camarade ?
On a deux visions différentes du
Céline,
même pays.
Céline, c'est pareil ?
Oui. Je, Je trouve que ça se marie très bien. On est dans l'Éthiopie chrétienne et musulmane, dans une chapelle romane. Je trouve que c'est juste parfait. Ça complète les différents regards qu'on peut avoir de ce pays, qui est un pays magnifique. Et après, effectivement, Sylvester, c'est le sud. Donc on a un peu des visions, enfin trois visions bien différentes de l'Éthiopie. Il y a bien d'autres, évidemment.
Et on a compris aussi que la photographie était importante pour vous, parce que ça permet justement de vous adresser ou de témoigner, comme disait Martha tout à l'heure, sur des sujets qui vous tiennent à cœur ou qui vous ont ému pendant un moment. Mmh. Vous partez un petit peu à l'aventure, d'ailleurs, du coup. Vous ne savez pas où vous allez, en fait. Comment vous renseignez avant de partir, Martha? Comment vous êtes renseignée avant d'aller faire votre reportage?
Déjà, j'avais vu les photos de Salgado et j'étais vraiment impressionnée. Je trouvais que ces chamas, en fait, ces châles que portent les chrétiens, c'était très élégant, magique, ça prêtait beaucoup à la photo. Et je connais très bien des pays comme Israël, ou des lieux comme en Inde ou en Iran. Et là, je voulais vraiment me retrouver dans ces églises sombres et voir pratiquer ces chrétiens orthodoxes.
Et de faire partager ça avec le public, notamment ici au Festival des Nuits photographiques de Pierre Vert. Vous avez la possibilité aussi, vous le savez, de croiser beaucoup de photographes. Il y en a autour de cette table et dans tout le village. C'est une opportunité pour vous? C'est quelque chose d'assez exceptionnel ou d'habituel?
Non, ce n'est pas habituel. Mais j'ai déjà exposé dans le festival Bar Objectif dans les Charentes. C'est aussi convivial, comme ici. Et aussi après, dans la photographie humaniste à Montélimar. Mm-hmm. Donc j'ai déjà deux visions différentes de festival. Mais ici, en fait, c'est différent. Ces projections dehors, je trouve ça très intéressant et magique.
Céline, ouais. Vous partagez son avis? Oui,
complètement. Moi, j'étais assez émue, en fait, hier soir, de la projection. Déjà, toutes les projections étaient toutes superbes. Mais de voir ces propre photo déjà sur une taille immense. Enfin, ça m'a beaucoup émue. Ces photos, effectivement, me tiennent beaucoup à cœur. Et la musique aussi, d'avoir réécouté la musique, parce que la musique qui va avec les photos, c'est la musique du pèlerinage qu'on entend là-bas, dans le seul haut-parleur du village. Et ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée de revivre ça avec d'autres personnes et, comme vous dites, de pouvoir partager. Ça, c'est pour moi indispensable, sinon c'est pas la peine de faire la photo.
Alors vous dites avec d'autres personnes, c'est une belle transition. On va passer le micro à votre voisine à côté. Il s'agit de Fatoumata Sakho. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
Vous avez une démarche qui est aussi très curieuse et très très intéressante, et vous exposez ici même à Pierre Vert, où vous avez projeté vos photos. Expliquez-nous votre démarche.
Alors, mon idée, c'est de dire en fait que nous sommes tous possesseurs d'un petit musée personnel, d'une collection particulière, avec des objets qu'on archive dans la cave ou sur l'étagère du salon. On passe devant, on n'y prête pas attention, jusqu'au jour où on les exhume à la lumière du jour et qu'on les montre. Et là, un temps proustien s'active, on commence à raconter des histoires, à les reconstituer, à les partager. On s'approprie aussi les histoires des autres. Voilà, c'est tout un travail sur la réactivation du souvenir, en fait.
Donc ça, c'est le sens de votre travail. Et la forme de vos photos, après?
La forme de mes photos, donc, alors moi, c'est de la mise en scène. Je travaille beaucoup sur la mise en scène et sur les images mentales. Là, par exemple, pour cette série-là, j'ai mis en scène une personne lambda que j'ai habillée comme le conservateur du musée. Je lui ai mis les gants blancs et je lui ai demandé de me présenter ces objets, de les présenter face à l'objectif. Voilà, et de les tenir d'une façon qui lui tenait à cœur, en fait, au final. Parce qu'il y a une dimension sentimentale derrière ces objets.
Comme des objets précieux, évidemment.
Voilà, ce sont des objets précieux. Les objets du banal sont des objets précieux.
Et on voit sur ces objets, alors ça peut être un appareil photo, un disque, un livre, un téléphone, des objets qui accompagnent notre vie.
Exactement, de tous les jours. Et des objets auxquels on accorde une valeur sentimentale. Voilà, qui est aussi importante que la valeur pécuniaire pour moi.
Et la réflexion que vous cherchez chez le public, c'est justement de se dire, mais est-ce que vous avez pensé un jour que votre Game Boy pouvait vous représenter? C'est ça?
Exactement. C'est une identité, c'est une part. C'est l'enfance, par exemple. La Game Boy, ça pourrait être Exactement. L'enfance, l'adolescence. Et il peut y avoir une histoire cachée derrière. Un moment partagé avec quelqu'un ou... voilà, il peut y avoir quelque chose. Derrière les objets, il y a une histoire. Et la façon dont on prend soin des objets, la façon dont on les conserve, la façon dont on les expose, ça en dit long aussi. Leur état de conservation. Par exemple, j'ai des objets où j'ai laissé des traces de salissure. Traces de salissure, il y en a qui sont cassées. Voilà. Et derrière, on sait qu'il y a des histoires. Une photo cassée, avec le cadre cassé, qu'on retrouve au fond d'une cave, c'est peut-être témoin d'une blessure. Ou, voilà, j'extrapole peut-être là, mais voilà, il y a quelque chose derrière. Voilà. Et le modèle, lui, lors de la mise en scène, je l'ai laissé partir, en fait, avec ses objets et les montrer vraiment telles qu'elle les voulait. Il n'y a vraiment pas de direction, en fait, au final. C'est juste le costume, présente tes objets face à l'objectif. On immortalise aussi le souvenir aussi.
Et c'est une réflexion, une belle réflexion sur le passé et sur les liens matériels qui nous lient.
Exactement,
à notre
sur la société de consommation aussi, parce qu'on magasine énormément d'objets qu'on remise à la cave et qu'on oublie même pendant 20 ans. Et un jour, on se rend compte qu'on a tout ça et on active plein de choses, quoi. On fait un travail de mémoire. Et on reconstitue aussi une identité aussi par rapport à ça, parce qu'on a oublié des choses.
Merci Fatoumata d'avoir témoigné et puis de nous avoir mis la tête dedans, dans nos souvenirs, dans notre passé et dans notre passé matériel en plus. Vous avez participé tout à l'heure à un atelier lecture de portfolio avec Peter Knapp. Peter, où vous allez y aller, voilà. Vous allez nous quitter pour ça. Peter n'a pas pu être des nôtres, mais il m'a accordé une interview tout à l'heure. Je vous propose d'écouter Peter Knapp, qui est l'un des grands photographes qui a impulsé cette rencontre des nuits photographiques de Pierre Vert, et il fut le premier parrain de la première édition. Peter Knapp. Peter Knapp, vous n'avez pas pu être des nôtres en plateau parce que vous animez une lecture de portfolio. Qu'est-ce que c'est exactement un portfolio ?
Le portfolio, c'est un tout petit peu ce que le photographe de lui-même pense que c'est le best-of. C'est ce qu'il a fait de mieux, ou ce qu'il aime le mieux et qu'il aime bien présenter. Et c'est très difficile pour un jeune parce qu'en général, il n'arrive pas à mettre des priorités. C'est-à-dire qu'il a fait 10 sujets et il me présente peut-être un tout petit peu de 10 sujets. Ou, au contraire, il fait une sélection d'un sujet qu'il pense, voilà, j'ai trouvé une chose. Et nous, en les guidant, en parlant avec eux, évidemment, on essaye toujours aussi de voir quelle est la personnalité derrière ces images, qu'un développement est possible. Beaucoup de photographes ont une tendance à être extrêmement formels. Ça veut dire que la composition est importante, que le cadre est important. Mais je pense que c'est important d'aller dans ce sens qu'on a envie d'aller. Et nos conseils vont dans ce sens. Ça veut dire que les guider, si possible, sur une voie qui corresponde à leur expression intérieure et aussi un peu leur envie. Vous savez, on n'est pas photographe pour faire des photos. En général, il y a des gens qui veulent raconter quelque chose, ils veulent dénoncer quelque chose, ils veulent démontrer quelque chose. Et tout ça, c'est à l'intérieur des gens et en devenant visuel et en représentant en principe l'image sans commentaire, ils espèrent que le spectateur attrape le code et qu'il arrive à approcher leur travail.
Difficile aussi d'en faire un métier et d'être un photographe professionnel.
C'est difficile de dire ce que je vous dis, mais le photographe, aujourd'hui, ne gagne plus sa vie. C'est presque comparable à l'automobile. Il y a la Formule 1, les stars qui vont très bien, et puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui adore la photo et que je trouve c'est formidable que tout le monde fait la photo. Et puis, c'est là où je vais actuellement, un peu depuis le selfie, qu'il y a la séparation, que tout de même, ceux qui aiment la photo, au-delà de ça, le selfie reste ce n'est pas une photo, c'est une chose événementielle. C'est une chose, on appuie, on le montre, on l'efface. Et puis, on communique. J'ai mangé des nouilles, je photographie des nouilles. C'est-à-dire que ce n'est pas ni pour la qualité des nouilles, ni pour les beautés des nouilles. C'est une autre façon de téléphoner. C'est-à-dire que c'est des téléphones visuels qui se font comme ça. Et là, je dirais, où ça se partage, c'est celui qui va jusqu'au tirage. Voyez, donc, à partir quand il y a produit un tirage, je dirais, voilà, ça, c'est quand même un photographe. Bien que j'encourage absolument tout le monde à faire de la photo. Hein.
Peter Knapp, ce festival, les Nuits photographiques de Pierre Vert, vous le connaissez bien, vous étiez à la fondation de cet événement. Quel regard vous portez sur son évolution ?
Moi, j'étais extrêmement sceptique quand le numérique est arrivé. Et ça fait très peu de temps que nous avons ça. Il y avait trop de choses de Photoshop tout de suite au départ. Et là, ce que je remarque, les images reviennent à des choses plus vraies. Ça retourne plus aux personnes, au talent et à l'envie narratif que des exploits techniques. Et ça se voit dans les projections. C'est-à-dire que c'est quand Photoshop il y a, ce n'est pas juste des collages qu'on aurait pu faire avec des ciseaux.
Donc une belle évolution.
Absolument.
Retour en plateau, on ne va pas se passer un plat de nouilles, c'est pas le moment, surtout après ce que vient de dire Peter Knapp. Mais par contre, on va continuer à parler photo avec Serge Arnal qui nous a rejoint. Bonjour Serge.
Bonjour.
Vous êtes vous-même photographe professionnel depuis plus de 30 ans. Vous photographiez notamment le Festival de Cannes et vous avez une vision particulière de ces personnes aussi qui photographient énormément avec des tablettes, avec des selfies, puisque vous... Depuis quelques années, vous les prenez en photo, c'est-à-dire que vous les prenez la main dans le sac quasiment.
Absolument. Je suis derrière eux. Je fais souvent. Alors, ce genre d'image, je l'ai fait par accident. C'est arrivé par accident, vraiment. Pendant un défilé de mode, je voulais photographier un mannequin. J'ai vu un bras tendu devant moi, et en fin de compte, au bout de ce bras, il y avait un. Un téléphone portable, et j'ai vu le mannequin dans ce téléphone portable et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc c'est un travail que je fais depuis 4 ans à peu près, donc à chaque fois c'est 2 saisons par an, donc ça fait pas mal d'images depuis. Et l'évolution technologique de ces appareils, que ce soit téléphone portable ou tablette, ont fait que j'ai fait beaucoup de photos donc sur les défilés de mode. Il y a un graphisme particulier d'ailleurs.
Vous avez une attitude comment par rapport à cette action ? Une attitude à la fois amusée, ce sont des concurrents. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez quelqu'un sortir un portable pour faire la même photo presque que vous ?
Il ne fait pas la même photo que moi, puisque nous, on a des appareils photo où on a des zooms qu'on peut utiliser.
Et votre métier ?
Oui, c'est mon métier, mais c'est leur métier aussi, parce qu'il y a beaucoup de journalistes aussi qui font des papiers. Alors donc ça, c'est dans l'univers de la mode, et donc ils font beaucoup de papiers et ils prennent en photo les différents mannequins qui passent, et pour après les en parler un peu mieux. Mais la démarche qu'ils ont, c'est pour moi, c'est une interrogation. Je suis vraiment interrogé par ces photos. Moi j'en vois un défilé, ça dure à peu près c'est assez court, 10 minutes, et ils sont 10 minutes rivés sur leur tablette, leur appareil. Alors bon, moi je fais des photos de ça et ça m'amuse, mais je suis en interrogation par rapport à ça, parce que je me demande qu'est-ce qu'ils font avec. C'est quelque chose, ils vivent ce moment-là. C'est très Kleenex, c'est-à-dire que ça va très vite. Ils consomment, ils voient, ils partagent certainement. Et après, où ça va, pour moi, c'est une interrogation.
Le mot lui-même de selfie, c'est quelque chose aussi qui doit vous dépasser, quelque part.
Alors, ce n'est pas vraiment des selfies, parce qu'un selfie, c'est se prendre soi-même avec un événement.
Ou une personnalité.
Ça, c'est sûr. Alors là, il y a une autre démarche. Je la fais aussi, ce genre d'image, avec des talents, on appelle ça des talents, les personnalités qui viennent souvent à Paris présenter des films, ils viennent, et là, pendant parfois une heure, mais vraiment une heure montre en main, ils vont au contact du public pour se prendre une photo avec eux, avec leur téléphone portable. Et ça, c'est une nouvelle démarche, parce qu'ils ont compris que la communication passait énormément par ça. Et toujours, à chaque fois, c'est ce portable, c'est être pris en photo avec la personnalité et l'engouement que ça a, ça me surprend à chaque fois. Mais bon, c'est une démarche voilà, qui est comme ça maintenant. Mais ils vivent vraiment, il faut vraiment, j'ai l'impression qu'ils veulent témoigner de quelque chose, de se dire, voilà, je suis là, je le partage. Ça m'impressionne, vraiment, ça m'impressionne.
Est-ce que parfois aussi, lorsque vous faites des défilés de mode ou bien à Cannes pendant le festival, ce sont des personnes qui vous gênent physiquement ?
Oui, oui, c'est sûr que à Cannes, lorsque on veut prendre une photo d'une personne, et effectivement, il y a des personnes qui s'arrêtent pour prendre cette personnalité, c'est sûr que c'est gênant. D'ailleurs, une polémique, Festival de Cannes voulait interdire les selfies, mais ils peuvent pas, c'est impossible.
C'est incontrôlable.
Incontrôlable.
Stéphane Kosman, qui est un habitué de Cannes aussi, bon, lui, il est haut de presque 2 mètres, il est carré. C'est difficile de s'imposer quand il faut faire une photo au pied des marches, par exemple, Stéphane ?
Difficile, c'est un exercice. C'est un exercice qu'on fait avec Serge depuis pratiquement 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Je voudrais rappeler que Serge est un être délicieux et élégant. C'est pas parce qu'il est là, mais j'ai souvenir d'avoir fait mon premier Cannes, en tout cas, pas le premier, mais le deuxième. Je sais pas si tu te rappelles, la Reine Margot, ça doit être 1989 ou 1990. Et je me suis retrouvé, moi, au milieu de photographes de presse. Ce n'était pas du tout mon univers. Et quand j'entendais qu'on interpellait Isabelle Adjani, tourne-toi, salope, j'ai été vraiment choqué. Et après 30 ans de Festival de Cannes, les personnes qui sont vraiment élégantes et distinguées dans les photographes de presse, je suis désolé, je peux les compter peut-être sur les doigts, enfin sur deux mains, quoi. Et Serge en fait partie. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter à ce festival, parce que c'est vraiment une personne de qualité.
Et qui respecte les personnes.
Qui respecte, tout à fait. Et quand tu lui as posé la question, est-ce que ces personnes te gênent ? Tu vois, il reste très élégant. Mmh. Voilà. Alors, c'est vrai que ça gêne. C'est vrai que vous êtes, quand on est à 40 photographes professionnels dans un, je sais pas, dans un tout petit espace, et qu'on est les uns contre les autres comme ça, et on se dit, bon, est-ce que tu passes ? Est-ce que là, ça va, ça va ? Et puis qu'après, une fois qu'on est tous calés, qu'on ne peut plus bouger, et qu'il y a un gars ou une fille qui tend le bras comme ça au milieu et pour faire un selfie comme ça, bah c'est vrai qu'à ce moment-là, on a peut-être envie d'être un petit peu violent.
Pour nos auditeurs, je signale qu'il a joint le geste à la parole, l'ami Stéphane Kosman, et il a mis sa main devant Hans Sylvester pour bien lui montrer comment ça se passait, d'autant plus que Hans ne photographie ou photographie rarement dans ce type de conditions. Au contraire, il est tranquille, il est seul, il est...
Vous ne pourrez pas le voir à la radio, mais quand on est effectivement à 40 dans un tout petit espace... On voit tout de suite le gars qui vient d'arriver, quoi.
Il y a des codes particuliers.
C'est-à-dire que le gars qui se met comme ça pour photographier, il sait qu'il gêne quatre personnes.
Avec le coude dans l'air, oui.
Voilà. Et là, on voit vraiment surtout les pros. Toi, hein. Quand un pro prend un appareil photo, c'est qu'on est comme ça. Et plus, on est très bien calé.
Les bras près du corps, évidemment, voilà. Pour éviter de gêner les copains à côté. Merci de toutes ces remarques très techniques, très particulières et très sensibles par rapport au public, même des photographes eux-mêmes. Et justement, j'ai plaisir d'accueillir une photographe qui a été projetée hier, dont les photos ont été projetées hier, et qui a une voix très connue sur notre antenne, puisqu'elle officie sur notre antenne de Manosque. C'est avec grand plaisir que je reçois Nathalie Bagary. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Et c'est la photographe que je reçois. Vous avez une passion pour la photographie que vous avez découverte assez récemment.
Oui, il y a à peu près 5 ans.
Et vous vous êtes mis à la photographie au point de développer des sujets spéciaux, particuliers, comme par exemple celui que vous avez proposé ici même aux Nuits photographiques de Pierre Vert.
Oui, en fait, 5 ans, c'est peu. J'ai encore tout à faire et tout à apprendre. Et voilà, je conçois la photographie toujours dans la joie. Et ça me relie au monde, aux autres. Et c'est une passerelle envers l'autre. Et donc, je vais souvent vers les autres. Et qu'est-ce que vous me disiez, François, là,
les photos que vous proposez, ben, je vais vous aider. Ce sont des portraits, en fait. Des portraits de personnes de couleur noire, en plus. Et à qui vous avez demandé de fermer les yeux. Pourquoi vous leur avez demandé de fermer les yeux?
Ben, en fait, le corps, en général, me fascine. Et le visage aussi. Et particulièrement, l'intimité d'un visage sans l'intimité du regard. Voilà, ça me trouble. Je pars toujours d'une émotion. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé sur ce sujet. J'ai réalisé une série. Et là, j'ai eu envie encore de continuer. Et j'ai demandé simplement à des gens dans la rue de
donc,
fermer
ce ne sont pas des
yeux.
Modèles professionnels.
Non, 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 bien sûr que non. Non, non. Non, non, c'est vous, c'est moi, c'est nous, en fait. Et voilà.
Et le résultat est superbe parce qu'on voit qu'il y a une mise en scène entre guillemets particulière et qui nous questionne parce qu'effectivement un visage privé de regard exprime aussi beaucoup de choses et nous laisse une libre interprétation.
Oui.
Et c'est ça que vous avez cherché en fait.
Oui.
Vous avez d'autres sujets, Nathalie, que vous avez développés qui sont particuliers?
Alors principalement, je questionne le corps parce que le corps me fascine. Donc... Oui.
Avec des visions particulières du nu, par exemple
Oui, on peut dire que je fais aussi du nu, mais pour moi, c'est plus un travail sur le
corps, la gestuelle.
Voilà, je n'ai pas de... Le corps, pour moi, et le nu, pour moi, c'est un hymne à la vie. Et donc, voilà, j'aime questionner, je n'apporte aucune réponse. Et
Vous avez suivi des cours ou des formations spécifiques dans la photographie?
J'ai commencé toute seule, dans mon coin.
Autodidacte.
Autodidacte. Et puis la vie a fait que, suite à un licenciement économique, eh bien, j'avais des droits à la formation, j'avais envie de découvrir l'art antique, l'initiation aux procédés anciens, et j'ai tout plaqué. Je suis partie un an sur Paris, et voilà, j'en suis revenue il y a quelques mois. Et j'ai choisi de revenir m'installer en Provence parce que j'ai besoin d'avoir du temps.
Et actuellement, vous travaillez sur de l'argentique ou du numérique?
Les deux.
Les deux?
Oui. J'ai installé mon premier labo à la maison. Et peu importe le procédé ou la technique, selon ce que j'ai envie de raconter, j'utilise le numérique ou l'argentique.
Le fait que le Festival des Nuits vous ait proposé de faire une projection, c'est une opportunité pour vous?
C'est un honneur parce que je vis en Provence, à 15 km de Pierre-Vert, dans le petit village de Réanne. Et j'avais proposé un dossier il y a 3 ans qui avait été refusé. Bon, ça veut dire peut-être que j'ai fait quelques progrès.
Certainement,
ici.
Certainement.
Et je suis ravie de participer, d'avoir été projetée hier. Et pour moi, c'est un honneur.
Et puis on va signaler aussi que le comité de sélection ne savait pas que vous travailliez en Fréquence Mistral.
Non.
Et que donc ils vous ont sélectionné tout simplement parce que vous avez du talent, Nathalie. Mmh.
Merci.
Voilà, et pas parce que pour des raisons de copinage. Les choses sont claires. Merci encore, et puis continuez à faire de magnifiques photos et de belles animations radio, évidemment. Merci Nathalie,
merci,
à très bientôt. Stéphane, on arrive à la fin de cette émission. On va quand même parler des événements qui se déroulent ici même. Il y a juste à côté de nous, et j'en suis très ému, j'ai la chair de poule quand j'en parle, il y a une exposition consacrée à Viviane Mayer, que vous avez réussi à voir ici même à Pierre Vert. Très brièvement, dis-nous ce qui s'est passé et dis-nous ce qui se cache derrière ce personnage.
On a rencontré au vernissage de Hans à la Fondation Carzou quelqu'un qui m'a parlé d'une collection française de Viviane Mayer. Et donc l'équipe est rentrée en contact avec Françoise, qui est responsable de cette association. Et on a réussi à la convaincre qu'elle puisse venir accrocher 25 photos de Viviane Mayer. Je rappelle que Viviane Mayer est exposée dans les plus grands musées du monde. Et on a 25 photos de Viviane Mayer ici, dont 5 autoportraits qui sont encore plus rares, puisqu'au départ, on devait avoir juste des images du champ de sort. Et Françoise nous a réussi à nous amener 5 autoportraits. Maintenant, toute la collection est verrouillée par Owen Greenberg à New York. Donc c'est vraiment, vraiment...
C'est exceptionnel.
C'est exceptionnel, exceptionnel.
On va inviter nos auditeurs à aller sur Internet. Si vous ne connaissez pas Viviane Mayer, c'est un petit peu normal. Elle a vécu dans l'ombre jusqu'aux années 2008-2010, grâce à John Malouf.
Surtout que son travail a été découvert après son décès. Donc
Et c'est donc quelqu'un qui a fait énormément de photos qu'elle n'a jamais montrées de son vivant. Donc c'est exceptionnel que de les voir. Et quand on a un regard de photographe, Stéphane, ce sont des photos qu'on peut mettre à côté d'un Douaneau, d'un Cartier-Bresson, par exemple.
C'est le même niveau.
Même niveau.
C'est le même niveau.
Et en plus
là, c'est un avis personnel.
Oui, en plus de ça, il faut signaler qu'elle vivait évidemment aux États-Unis. Elle était quand même originaire du Champsaur, dans les Hautes-Alpes. Et elle a, dans les années 58-60, elle est revenue sur les terrains de son enfance et elle a fait des photographies. Alors imaginez un instant une Américaine qui vit à Chicago et qui voit un troupeau de moutons ou de chèvres dans une campagne des Hautes-Alpes, c'est absolument exotique et c'est ce qui ressort de ces photos, qui ne sont pas des photos qu'on peut comparer à Cartier-Bresson ou à Robert Doisneau, qui avait une vision franco-française de ces choses-là. Et c'est magnifique. Donc c'est à découvrir, Viviane Mayer. Il y a autre chose à découvrir très important ici même, Stéphane, c'est le travail qu'a fait Muriel avec sa photo mobile.
Tout à fait, c'est Muriel Borovy qui s'est investie vraiment à Pierre Vert, puisqu'elle est venue bien en amont du festival. C'est la première fois que nous avons une artiste en résidence, hein, c'est-à-dire qu'elle vient sur la commune de Pierre Vert. Elle a été dans plusieurs villages autour de Pierre Vert. Elle-même est originaire de Valensole. Et donc, elle a amené un concept qui ressemble un petit peu à une cabine photomaton, mais elle y met un éclairage très, 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 très personnel. Et elle offre un tirage à chaque personne qui vient dans cette cabine. Donc, pour la première fois, nous allons avoir, et je vous conseille de venir demain matin, dimanche, puisqu'elle viendra montrer les résultats de toute sa moisson, on va dire, de photos. Et nous, en tant que nuit photographique, elle va nous remettre un ouvrage avec, je crois, les 150 portraits de sa sélection.
Voilà. Il y a des gens de Pierre Vert, de Montfuron, de Manosque, Valensole, etc. Exactement. Tout le territoire de DLVA, l'agglomération manosquine.
Tout à fait.
Donc c'est une bonne chose. Et le choix d'avoir pris une photographe en résidence est aussi un choix important pour les nuits.
C'est notre avenir. C'est comme cette année, l'année dernière, nous avions, on va dire, un balbutiement de lecture de portfolio. Cette année, on l'a organisé. Peter a accepté d'être le président, un peu le directeur de ces lectures de portfolio. Chaque année, on aura un artiste en résidence. Voilà, et Muriel ouvre la voie.
C'est à suivre donc au niveau des nuits photographiques de Pierre Vert. Et puis ce sont des petites graines qui sont plantées là, qui sont intéressantes et qu'on va voir mûrir. J'ai promis également à Laurence de parler de Tambacounda, cette magnifique association, et des dons qui ont été faits par des photographes. Il reste encore une dizaine de tirages de magnifiques photos dont l'argent et le bénéfice ira directement à une association. C'est au Sénégal, Tambacounda, et c'est une association de Rayan qui s'occupe de ça et on en profite pour remercier tous les photographes qui ont offert des tirages pour aider à la scolarisation de jeunes enfants au Sénégal pour cette association magnifique. On arrive à la fin de cette émission. Stéphane, saluer peut-être tous tes bénévoles ici même, tous tes collègues et puis tous les habitants de Pierre Vert qui ont joué le jeu aussi.
Tous les bénévoles, toute l'équipe, tous les habitants de Pierre Vert, mais pas uniquement de Pierre Vert, puisque cette année, on a eu un gros, gros souci d'hébergement. On a été obligé, pour des raisons techniques, de changer nos dates de festival. Donc, les hébergeants n'étaient plus uniquement Pierre Verdant, c'était Sainte-Tulle, Manosque et un peu toute la région. Parce qu'on a vraiment fait appel à d'autres, d'autres volontaires.
C'est la réalité de l'agglomération, la DLVA. Donc on est dans une bonne logique. On va aussi saluer tous les partenaires financiers de ton festival, autrement dit la commune de Pierrevert, DLVA bien sûr, la région, le département, j'en oublie.
Le Crédit Agricole.
Ah, ça, ce sont les partenaires privés. Vas-y,
ah, pardon, oui. Excuse-moi. Vas-y. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.
Bien sûr, au contraire. Non, et qui continue à te soutenir.
Voilà, on a le Crédit Agricole, on a aussi on a un très joli partenariat avec le magazine Photo.
Oui.
Coup de chance, j'ai un ami qui a racheté le magazine, donc je l'ai pisté pour le coincer et puis pour lui demander s'il pouvait. En fait, le prix du jury et le prix du public cette année auront une parution dans le magazine Photo, donc ils vont attendre les résultats de dimanche soir. Ils vont attendre pour l'impression du magazine pour que ces deux photographes aient leur photo dans le magazine Photo.
C'est super, ça avance
Je souligne aussi Evian, Renault, Evian qui nous régale avec pas mal de bouteilles, même des bouteilles spéciales nuit photographique, des bouteilles collector. Et puis Renault qui nous prête
ce qui est un must dans un pays où c'est le vin qui fait vivre la commune de Pierrevert avec sa cave viticole. Être sponsorisé par Evian, excuse-moi, mais c'est une prouesse. Bravo.
Voilà, et je vais en oublier beaucoup d'autres. On a aussi... elle m'a promis de ne pas la citer, donc je ne citerai pas, mais on a des personnes qui sont dans le village qui nous font des chèques et même des amis qui viennent de Montélimar et qui sortent leur carnet de chèques, comme ça, qui sont des amoureux de Pierrevert.
Très bien, merci Stéphane. On va avoir aussi une petite pensée émue pour Marc Ispar qui nous a quittés il y a quelques mois.
En parlant de d'élégance...
Oui.
Je crois que Marc était, pour les personnes qui l'ont connu pendant les nuits photographiques de 2010, Marc était vraiment une personne très élégante, très discrète, avec un travail exceptionnel sur la mode.
Et je me souviens de son intervention ici même sur un plateau radiophonique, c'était magnifique. Merci, et puis à l'année prochaine donc, Stéphane.
On sera là.
Merci à tous, à très bientôt.
Merci.